France Inter.
Bonjour à tous. Gaza, couloir humanitaire, boulevard de la faim. Des premiers camions d'aide en approche de l'enclave. Israël promet une pause quotidienne dans ses combats. Nous serons à Jérusalem et l'on entendra les critiques des ONG au sujet des largages aériens d'aide alimentaire. La une, c'est aussi l'inquiétude dans l'Aude face aux flammes. Désormais, 630 hectares parcourus par l'incendie près de Sigean. Le feu stabilisé, mais pas fixé, le vent se lève et menace. L'actualité, c'est encore un bras de fer écossais entre Donald Trump et Ursula von der Leyen autour des droits de douane. Quand les parcs d'attractions redeviennent attractifs en proposant des prix moins onéreux, nous irons sur le Tour de France Femmes en Bretagne et à Montmartre où les hommes vont passer cet après-midi pour la première fois lors de l'étape finale de la Grande Boucle. Et pour la météo cet après-midi, Magali Rochereau, à part dans le sud-est du pays, le temps reste perturbé.
Oui Fabien, Météo France attend des averses orageuses dans l'est et du vent dans le sud avec des températures qui se rafraîchissent encore.
On vous retrouve à la fin de ce journal pour vos prévisions complètes.
France Inter.
Le calme en sursis à Gaza, la pause tactique dans les combats annoncés par Israël ce matin suscite déjà beaucoup de questions. Elle sera quotidienne entre 10h et 20h, heure locale. Bonjour Michel Paul.
Bien, bonjour à tous.
En direct de Jérusalem pour Inter, l'idée de cette pause étant de rouvrir des corridors humanitaires.
Oui, on n'avait pas vu ça depuis des mois, des convois de camions qui entrent dans la bande de Gaza depuis Israël, mais aussi depuis l'Égypte. Les réseaux sociaux sont inondés de ces images. Alors des pauses tactiques sont prévues quotidiennement de 10 à 20 heures en heure locale dans les secteurs de l'enclave palestinienne où l'armée n'opère pas en ce moment. Al-Mawassi, Dir el-Balah et Gazaville, des couloirs humanitaires sont mis en place pour permettre l'acheminement des convois de l'ONU avec de la nourriture et des médicaments destinés à la population gazaoui. Il faut bien comprendre que c'est par la voie terrestre que la masse de l'aide humanitaire est conduite vers l'enclave palestinienne, même si la nuit dernière, il y a eu un premier largage aérien israélien, notamment de la farine, du sucre et des conserves. Autre point important, le raccordement de l'usine de dessalement du sud de Gaza au réseau électrique israélien. Cela devrait permettre la production de 20 000 mètres cubes d'eau potable par jour, 10 fois plus que jusqu'à présent.
Deux premiers convois après des mois de blocus, le chef des opérations humanitaires de l'ONU s'en félicite ce midi. En revanche, les largages aériens de denrées sont unanimement critiqués, en témoigne cette responsable de Médecins sans frontières, Amande Bazerolle.
On regrette ce type d'interventions qui ne servent pas à grand-chose, qui sont extrêmement ponctuelles et qui restent non organisées. On ne sait pas qui va les récupérer. Ça tombe n'importe où, on ne sait pas où. En plus, il ne reste que 15% du territoire qui est accessible aux gens. Il parle également d'une pause de 10 heures. Ça n'est pas en 10 heures qu'on va résoudre la famine à Gaza. C'est seulement en ouvrant les frontières et en laissant ceux qui savent le faire travailler. Les gens sont affamés quand on a créé une telle situation de chaos. Ça va mettre du temps pour pouvoir atteindre tout le monde et être sûr que les gens soient rassurés de ne pas avoir juste un colis une fois de temps en temps. Pour que l'on puisse le faire de manière sécurisée, il faut que ce soit fait de manière continue.
Amande Bazerolle de Médecins sans frontières, je me tourne à nouveau vers vous, Michel Paul, parce que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est sous pression, y compris au sein de son gouvernement.
Oui, un responsable israélien explique qu'en fait, c'est le résultat de l'échec du système mis en place par les Américains et soutenu par Israël. Mais aujourd'hui encore, Israël nie l'existence de la famine dans l'enclave palestinienne et parle de campagne de dénigrement soigneusement orchestrée par le Hamas qui a entraîné un véritable tsunami anti-israélien ces dernières semaines, y compris pour plusieurs élus israéliens, l'annonce faite par le président Macron sur la reconnaissance de l'État palestinien. Et cela provoque une crise interne. Les ministres extrémistes Ben-Gvir et Smotrich ont été écartés de la décision de permettre la reprise de l'entrée d'aide humanitaire à Gaza. Ils s'y opposent de toutes leurs forces. Tous deux fulminent et parlent de capitulation face au Hamas, mais ils n'ont pas l'intention de quitter le gouvernement.
Michel Paul, RFI pour France Inter. Par ailleurs, le bateau Andala exploité par le mouvement pro-palestinien Flotille pour la Liberté est arrivé ce matin en Israël, après avoir été intercepté par l'armée israélienne alors qu'il se dirigeait vers Gaza avec de l'aide humanitaire à bord. Deux élus insoumis français se trouvaient sur ce bateau à 115 km de Gaza dans les eaux internationales. Et dans ce contexte de conflits mondiaux, une nouvelle journée de défense et de citoyenneté dès la rentrée en France. Tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans devront participer à une version revisitée de cette journée, comme annoncé en janvier et la veille du 14 juillet par le chef de l'État, avec Elia Bergel, une très forte coloration militaire.
Oui, terminer la journée où les participants écoutent assis une présentation sur les métiers des armées. Dès septembre, ça devient beaucoup plus concret. Au menu, tir sportif laser, jeu de stratégie et repas autour d'une ration militaire, entre autres, explique l'entourage du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Lever des couleurs, Marseillaise le matin, la journée de défense et de citoyenneté, nouvelle formule, finira par un au revoir républicain. Les 800 000 jeunes qui y assistent chaque année repartiront avec un bleuet de France en mémoire des anciens combattants. Cette évolution a lieu en pleine guerre, en Ukraine et dans la bande de Gaza, alors que les États-Unis font cavalier seul sur la scène diplomatique. Notre Europe se trouve placée à la lisière d'un vaste arc de crise, a mis en garde Emmanuel Macron il y a 2 semaines. Nous, Européens, devons désormais assurer notre sécurité nous-mêmes, a dit le chef de l'État.
Elia Bergel, le feu dans l'Aude stabilisé mais pas encore fixé. Et le vent inquiète les autorités. 2 maisons près de Sigean déjà été touchées par les flammes. Une détruite, 630 hectares déjà parcourus. Et la préoccupation concerne donc les rafales de vent. Le vent se lève, devrait souffler plus fortement. Bonjour Erwan Chassin.
Bonjour Fabien, bonjour à tous.
Les habitants sur place ne sont pas rassurés.
Oui, l'incendie qui a donc démarré hier sur la commune de Sigean, soutenue donc par une forte sécheresse et des rafales de vent. Jérôme était aux premières loges pour assister au sinistre. Les flammes sont arrivées presque aux portes de son lieu de travail dans la zone industrielle de Sigean.
On a vu une colonne de feu se former là, qui dépassait bien les 6-7 mètres. Et là, on a compris que le danger était vraiment là, quoi. Et après, c'est l'odeur dans l'entrepôt où on s'est dit là, on n'est pas trop en sécurité non plus, quoi. C'est vachement impressionnant.
Jérôme avait la sensation d'être asphyxié par les fumées et il décrit la sidération des habitants face aux flammes.
On avait l'impression que le temps s'était arrêté presque. On était tous figés. On a essayé de comprendre d'où ça venait, comment ça allait partir, dans quel sens ça allait.
Le feu s'est ensuite dirigé vers la commune voisine de Port-la-Nouvelle. En ce moment donc, le feu est stabilisé grâce aux plus de 600 pompiers sur place. Mais ce vent laisse craindre un retour de flamme, explique Rémi Ressio, le sous-préfet de l'Aude, interrogé par ici Roussillon, ex-France Bleu.
On atteint là 70-75 km/h de vent, ce qui n'est absolument pas favorable, mais le travail qui a été notamment accompli par les unités de génie dans la nuit a permis de limiter la progression. Maintenant, le feu est dans un périmètre qui est circonscrit pour arriver à passer de la stabilisation à un feu qui sera fixé.
Et les 1000 habitants et vacanciers évacués hier ont pu tous regagner domicile ou camping ce matin.
Erwan Chassin, et ce midi, vous parliez d'ailleurs du sous-préfet de l'Aude. Il demande à la population ce midi la plus grande vigilance et appelle chacun à être le premier pompier de son pays. Alors que dans le sud-est, le Var et les Bouches-du-Rhône sont en vigilance rouge. Dans les Bouches-du-Rhône, 23 des 25 massifs forestiers strictement interdits d'accès toute la journée. C'est un peu de la négociation commerciale. En pleine nature, Donald Trump reçoit aujourd'hui dans son complexe de golf écossais Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Contraste très fort entre ce cadre verdoyant, paisible, et de l'autre côté, l'urgence pour les Européens de trouver un accord avec le président américain autour des droits de douane. Elsa Lossoir, correspondante France Inter à Bruxelles.
Cette réunion fait un peu figure d'ultime négociation pour arracher un accord avant l'entrée en vigueur des menaces douanières du président Trump le 1er août. Selon plusieurs responsables européens, les deux parties seraient proches d'un accord. Hier soir, les discussions en Écosse se sont poursuivies jusqu'à tard entre les représentants américains au commerce et leurs homologues de l'Union européenne pour s'accorder sur les derniers points de tension qui persistent. Le texte actuellement en discussion prévoit des surtaxes douanières de 15% avec des exceptions sur l'aéronautique et les spiritueux, mais pas sur le vin. Les Européens s'engageraient aussi à acheter du gaz naturel liquéfié et à investir massivement aux États-Unis. Mais côté européen, on reste prudent. Il y a quelques semaines, le président Trump a rejeté un premier accord à la dernière minute et quoi qu'il en soit, toute décision qui sortirait de cette rencontre devra être validée par les États membres de l'UE. En cas d'échec, le paquet de contre-mesures européennes est prêt. Des milliers de produits américains qui seraient taxés à 30% et la possibilité pour l'Union de taxer les géants américains de la tech, des mesures qui entreraient en vigueur à partir du 7 août prochain.
Elsa Lossoir à Bruxelles pour Inter, début de la rencontre prévue cet après-midi autour de 16. 16h30. Donald Trump qui a discuté ces dernières heures avec les dirigeants cambodgiens et thaïlandais sur fond de menace d'une nouvelle guerre entre les deux pays. La Thaïlande se dit prête au dialogue pour mettre fin au conflit, mais les tirs et frappes se sont poursuivis ce matin le long de la frontière. Déjà 34 morts en 4 jours. Entre la Russie et l'Ukraine, la guerre ne fait pas de pause. La Russie annule ce matin une grande parade navale annuelle pour des raisons de sécurité. 3 ans et demi après le début du conflit, comment continuer à vivre tout en restant mobilisé quand on est ukrainien? Rencontre avec un musicien de métal parfaitement francophone, engagé dans l'armée et qui vient de sortir un titre en hommage à sa brigade. Reportage des envoyés spéciaux de France Inter, Agathe Mahué, Hélène Langlois et Yachar Fazilov.
Enregistrement en cours dans ce studio de Kiev. Dmytro Kouchnir est batteur dans le groupe de métal Harmata, qui signifie canon.
Il faut qu'on soit un peu sauvage, parce que sinon on jouerait un truc de merde, quoi.
Et depuis un an, Dmytro a rejoint l'armée avec la 4e brigade de la garde nationale, d'où ce titre aujourd'hui.
C'est une chanson qui est dédiée et consacrée à la brigade, en fait. La chanson va s'appeler « Je suis l'arme ». Ça vient d'une phrase qu'a sortie mon commandant dans une situation où on lui demandait, tu vois, il rentrait dans un truc, on lui dit « Vous avez les armes sur vous ?» et il dit « Je suis l'arme moi-même ».
Sa brigade a toujours été au front et lui est chargé à l'arrière de toute la coopération civilo-militaire.
Déjà, l'État ne peut pas tout faire. Et je dirais même que c'est bien que la société civile soit impliquée.
D'autant que la fin de la guerre lui semble très loin.
Les pourparlers qui ont eu lieu là, moi je pense qu'il n'y aura rien. Les Russes, ils ne vont s'arrêter que s'ils sont arrêtés. Par voie militaire ou économique ou les deux ou je ne sais pas quoi. Sinon, ils n'ont aucune raison pour s'arrêter. Et on va continuer à se battre tant qu'il faudra pour que la Russie s'écroule. Et la paix, elle n'est pas possible aujourd'hui, c'est clair.
Agathe Mahué en Ukraine avec Hélène Langlois et Yachar Fazilov. Comment profiter des vacances en France sans se ruiner? De plus en plus de familles plébiscitent les petits parcs d'attractions, souvent moins chers, plus accessibles. La preuve au parc Papéa à Ivre-l'Évêque, commune voisine du Mans. Reportage Willy Moreau.
Etem, Sabrina et leurs 3 enfants ont testé essentiellement des manèges à sensations sur la trentaine d'installations.
C'est un petit parc, pas trop grand mais pas trop petit. Ça plaît à tout le monde.
Et si ses parents venus du Loir-et-Cher ont le sourire, c'est grâce au ticket d'entrée que montre Etem.
C'est très bien.
124,90 euros.
120 euros, c'est rien du tout.
124,90 pour Disney, je pense que c'est même pas 2 places, je crois.
On va se permettre un Disney tous les ans. Alors que là, on se pose pas la question. On sait que juillet, août, on va venir à Papéa.
Des montagnes russes, un espace aquatique, le site de 24 hectares a étoffé son offre, mais elle reste à taille humaine.
Florian pour l'INSEE.
Ce qui permet à Florian, le directeur, de proposer des prix attractifs.
On a des manèges plus petits, des investissements qui sont forcément moins élevés. Des charges de structure qui sont moins élevées, qui sont faites proportionnelles à l'activité qu'on a.
Le parc possède 7 endroits pour se restaurer, mais aussi une grande aire de pique-nique où chacun peut ramener sa nourriture.
En termes d'économie, là, c'est imbattable.
Et ce n'est pas une stratégie perdante pour Papéa, à entendre Sabrina, la mère de famille du Loir-et-Cher.
Peu importe ce qu'ils vont nous demander en plus, en extra, ici, sur place, à consommer, on refuse pas. On peut se le permettre, du coup.
Le parc enregistre plus 10% de visiteurs supplémentaires cette année, alors que le secteur est plutôt à la baisse en France.
Et avant de profiter des vacances, prudence encore sur la route. Bison Futé a classé ce dimanche orange dans les 2 sens les principales difficultés entre Bordeaux et Bayonne et dans la vallée du Rhône. France Inter, 13h13, un grand final et une étape bretonne au programme du, ou plutôt des Tours de France. Avant d'aller à Montmartre où l'on attend les coureurs masculins pour un final inédit sur la grande boucle, l'on commence avec vous, Hélène Fromanti sur la moto Radio France du Tour Femmes. 2e étape en Bretagne, 110 km entre Brest et Quimper. Une étape, Hélène, qui sera plus difficile qu'il n'y paraît.
Oui, une étape qui a l'air facile sur le papier, mais en réalité assez accidentée, avec 4 difficultés répertoriées, notamment celle de Méné-Keller de catégorie 3, avec des passages jusqu'à 10%, et aussi un final à Quimper en haut d'une bosse qui ne laissera aucun répit aux coureuses. Ça va être punchy sur des routes sinueuses en montagne russe. Et déjà 2 coureuses échappées, avec une petite minute d'avance sur le peloton. La Bretonne, locale de l'étape, Joseph Hautes-Bianic pour la Movistar et l'Allemande Franziska Kor, championne nationale, qui a reçu hier le prix de la combativité sur sur la première étape où c'était également le territoire des puncheuses. Alors je le disais, une minute d'avance, on va voir jusqu'où ce duo de coureuses va aller et si Marianne Vos va réussir à conserver son maillot jaune à l'arrivée de cette deuxième étape. En tout cas, énormément de monde ici sur les bords des routes. On ne compte plus les drapeaux bretons, les costumes bigoudins, les pancartes à l'Elefi pour encourager les coureuses sur cette deuxième étape 100% finistérienne.
Hélène Fromanti avec Julien Girard aux moyens techniques et au guidon de la moto Radio France. Et l'on se tourne vers vous, François Breton, bonjour.
Bonjour Fabien, bonjour à tous.
Pour l'arrivée du Tour de France homme, arrivée, je le disais, inédite avec les pavés de la butte Montmartre sur le parcours, à 5 heures du passage des coureurs, déjà beaucoup d'ambiance où vous trouvez rue Lepic.
Oui, maillot à pois, bob rouge et blanc ont envahi la rue Lepic. Je suis à côté du moulin de la Galette où le public attend patiemment. Les drapeaux ont été installés sur les barrières. On voit des drapeaux espagnols, italiens, du Royaume-Uni, drapeau breton, là aussi drapeau vendéen, bref, du monde et des plus malins qui ont pris leur siège pliable pour patienter avant le passage des premiers coureurs. Ce sera aux alentours de 18h30, dans un peu plus de 5 heures. Donc, en attendant, les amateurs, eux, s'essaient à cette fameuse côte de la butte Montmartre avec soit des vélos de course mais aussi des vélos en libre service. Certains ont plus de mal que d'autres mais peuvent compter sur les encouragements du public qui chauffe déjà la voie tout en gardant un œil sur le ciel puisqu'il est plutôt menaçant ce soir. On attend de la pluie en fin d'après-midi mais tous espèrent en tout cas revivre la même ferveur qu'il y a un an lorsque le peloton cycliste était passé par la butte Montmartre à l'occasion des Jeux Olympiques.
François Breton, ici Paris, merci à vous. Vous parliez de la pluie, on va voir ce qu'il en est immédiatement.
La météo avec l'alarme Vérissure. Détectez et mettez en fuite les intrus dès le jardin grâce au nouveau détecteur extérieur vidéo. Rendez-vous vite sur verissure.fr.
Bonjour Magali Rochereau.
Bonjour Fabien.
Cet après-midi, l'instabilité persiste sur un large quart nord-est.
Oui, des frontières du nord jusqu'au Grand Est, en passant par l'Île-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et la région Rhône-Alpes, le ciel reste bien chargé avec des averses fréquentes et parfois orageuses. Ces précipitations pourraient s'étendre plus au sud en direction du Midi Toulousain et jusqu'aux Pyrénées, tandis qu'à l'ouest, du Pas-de-Calais jusqu'à l'Aquitaine, l'ambiance est plus calme, entre éclaircies et passages nuageux, avec quelques ondées possibles vers la Manche. De la Bretagne au Poitou-Charentes, les éclaircies sont plus généreuses et le temps souvent sec. Et en Corse, quelques averses orageuses peuvent se déclencher sur le relief. Partout ailleurs autour de la Méditerranée, le soleil domine dans un ciel bien dégagé.
Et le vent reste fort dans ce secteur, Magali.
Oui, Mistral et Tramontane soufflent jusqu'à 70 à 80 km par heure, augmentant le risque de feu. Côté température, les maximales amorcent une légère baisse. Elles s'échelonnent entre 19 et 24 degrés sur la moitié nord, de 22 à 26 dans le sud, de 27 à 32 autour de la Méditerranée et localement jusqu'à 34 ou 35 dans le Var.
Prévision météo signée Magali Rochereau.